Vous écoutez France Inter et vous avez bien raison, il est 19h. Hélène Philippe pour le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. Le pardon de la France et une loi de réparation. Les harkis attendaient ces mots depuis la fin de la guerre d'Algérie. La première fois qu'Emmanuel Macron demande pardon en 5 ans, nous y reviendrons en détail et en réaction. La France a été traitée de manière inacceptable. La présidente de la Commission européenne apporte son soutien à Paris dans l'affaire des sous-marins. Le président américain se dit de son côté impatient de s'entretenir avec Emmanuel Macron. Dans l'actualité encore, les masques made in France soumis à la concurrence asiatique, la COP des masques au bord du dépôt de bilan en Bretagne. Y a-t-il eu bavure policière vendredi à Noisy-le-Grand ? Et puis ça fait plus de 20 ans qu'on n'avait pas vu une telle entrée dans les collections françaises. 9 Picasso viennent d'être cédés à la France par la fille de l'artiste. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien ce soir, les vaccinés, comptez-vous, 50 millions de premières doses, qu'elles soient enthousiastes ou contraintes et forcées, notre vaccination est championne du monde. Alors ok, mais qu'est-ce qu'on fait de ce chiffre maintenant ? Est-ce qu'on peut prendre de plus larges libertés, notamment sur le masque ? Est-ce qu'on verra bientôt disparaître ce pass sanitaire ? La vie normale, c'est pour quand ? D'ailleurs, c'est quoi vraiment la vie normale? Vous poserez vos questions à Alain Fischer, l'homme de la stratégie vaccinale, au 01 45 24 7000.
France Inter. 60 ans après la fin de la guerre d'Algérie et l'abandon des harkis, Emmanuel Macron a donc demandé pardon et ouvert aujourd'hui le chantier de la réparation.
Aux combattants abandonnés, à leurs familles qui ont subi les camps, la prison, le déni, je demande pardon. Nous n'oublierons pas. C'est pourquoi le gouvernement portera avant la fin de l'année un projet visant à inscrire dans le marbre de nos lois la reconnaissance et la réparation à l'égard des harkis. Je m'y engage.
Une histoire douloureuse, une déchirure de deux pays, a reconnu le chef de l'État entre 1954 et 1962, en pleine guerre d'Algérie. Jusqu'à 200 000 harkis sont recrutés comme auxiliaires de l'armée française pour combattre les nationalistes algériens. Mais à la fin de la guerre, ils sont oubliés, victimes de représailles sur place ou transférés en France pour plusieurs dizaines de milliers d'entre eux, dans des camps de transit, de reclassement, dit-on à l'époque. La communauté harkis aujourd'hui représente environ 800 000 personnes. Le pardon est important, mais la promesse d'une loi, d'une réparation, encore plus aux yeux de Mohand Amoumou, l'ancien maire en marche de Volvic et par ailleurs président d'Agir pour les harkis.
On ne demande pas à quelqu'un de vous demander pardon quand vous savez que c'est pour quelque chose d'impardonnable. Donc on ne demande pas à l'État de demander pardon, on demande à l'État d'assumer ses responsabilités. Effectivement, comme l'a très bien dit le président, c'est pas une loi mémorielle, on ne demande pas aux députés d'écrire l'histoire, c'est une loi où on demande de reconnaître des faits historiques et surtout d'en tirer des conséquences en termes de justice et de réparation. Alors que, à titre personnel, il demande pardon, bien sûr, j'allais dire tant mieux, mais la demande première, c'était cette demande de loi. Et il y a accédé, et c'est très bien.
La France qui promet de réparer, plus important que le pardon. Et pourtant, Simon Le Baron, bonsoir.
Bonsoir.
Et pourtant, c'est la première fois en 5 ans qu'Emmanuel Macron utilise le mot pardon. Comment l'expliquer ?
Eh bien parce que c'était un impératif moral, nous explique un conseiller du président. Non seulement pour les harkis, mais aussi pour l'idée que l'on se fait de la France. Jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai, Emmanuel Macron avait toujours refusé de demander pardon, que ce soit pour l'Algérie, pour le Rwanda ou pour les essais nucléaires en Polynésie. Le président voulait à tout prix éviter les procès en repentance, en auto-flagellation que n'aurait pas manqué d'instruire la droite et l'extrême droite. Mais là, c'est différent. Jamais une communauté d'êtres humains n'a été traitée de cette façon par la 5e République. C'est ce que pense en tout cas un proche du chef de l'État. Et puis, à 7 mois de la présidentielle, il faut le dire, les harkis et leurs enfants représentent un électorat non négligeable, entre 500 000 et 900 000 personnes. Électorat traditionnellement dragué justement par la droite et l'ex-Front National.
Le pardon et une loi, c'est plus que ce qu'avaient fait ses prédécesseurs.
Jacques Chirac, qui le premier avait évoqué une dette d'honneur, Nicolas Sarkozy qui avait admis la responsabilité de la France, François Hollande qui avait à son tour reconnu l'abandon des harkis et de leur famille. Emmanuel Macron s'inscrit donc aujourd'hui dans la lignée de ce travail de 20 ans, mais c'est vrai qu'il va plus loin en gravant dans le marbre cette reconnaissance et cette nécessité de réparation. Cette loi devrait être votée avant le mois de février. Elle mettra notamment en place une commission nationale chargée de recueillir les témoignages et d'estimer les demandes d'indemnisation. C'était une demande essentielle des associations qui saluent pour beaucoup ce soir un pas historique, même si on l'a constaté tout à l'heure à l'Élysée, aucun mot, aucune loi ne pourront jamais panser ces blessures.
Simon Le Baron du service politique de France Inter, Emmanuel Macron veut réconcilier les mémoires, espère-t-il aussi couper l'herbe sous le pied de la droite et de l'extrême droite. Vous le disiez, Simon, qui ont toujours défendu la cause des harkis. Le Rassemblement National n'a pas tardé à réagir. Une générosité électorale qui ne réparera pas des décennies de mépris, juge la candidate Marine Le Pen. Même tonalité chez le maire de Perpignan, Louis Alliot, pour qui le mot « excuse » ne suffit pas.
Et ce mot, c'est la troisième fois qu'il vient de la part d'un président de la République. Il n'est pas nouveau. Sarkozy l'a fait, Hollande l'a fait, donc Macron le fait aujourd'hui. Mais derrière, il y a quoi ? C'est pas sincère. La sincérité, elle demanderait des efforts importants et pas seulement financiers, hein, dans l'insertion d'enfants de harkis, avec peut-être des places privilégiées dans un certain nombre d'administrations, des plans de formation massifs, parce que beaucoup, malheureusement, ont été laissés à l'abandon. Bref, tout ça n'y est pas. On crée un fonds, 300 millions, bon, et puis quoi derrière ? Et puis rien du tout. On continue comme avant, et même pire, on va honorer la mémoire de ceux qui ont assassiné les harkis. Et ça, moralement, c'est inadmissible et je pense que ce n'est que par calcul électoral, 8 mois avant l'élection.
Louis Alliot au téléphone d'Anne Souhaitemont. Samedi, ce sera aussi la journée nationale d'hommage aux harkis, notamment dans le sud de la France où cette communauté est très présente.
À 19h06, Hélène, les portes des États-Unis se rouvrent.
Après un an et demi de restrictions, oui, tous les voyageurs pourront de nouveau poser le pied aux États-Unis. Jusqu'ici, les frontières étaient restées fermées à des millions de personnes, qu'elles soient testées ou vaccinées. Et cela a évidemment entraîné des situations douloureuses, personnelles, familiales. C'en est donc fini. Mais il y a quand même quelques conditions. Sébastien Paour est à Washington.
Deux conditions principales pour entrer aux États-Unis à partir de début novembre, fournir la preuve qu'on est totalement vacciné et un test négatif de moins de 3 jours, et cela avant de monter dans l'avion. Le coordinateur de la Maison-Blanche pour la lutte contre la pandémie, Jeff Zients, ne donne pas de détails, mais il explique que les voyages internationaux sont essentiels pour relier familles et amis et pour faire tourner les entreprises. Washington ne précise pas quels seront les moyens de prouver sa vaccination, mais parle d'un nouveau système de voyage en avion, où le port du masque est obligatoire pendant tout le vol et où les compagnies aériennes demandent numéro de téléphone et mail aux voyageurs pour un suivi des autorités en cas de symptômes à l'arrivée sur le sol américain. Les familles et proches séparés auront donc attendu 20 mois avant que la réciproque soit possible, avant la levée du travel ban, la fermeture des frontières, avant que les leurs puissent venir ici, comme les Américains peuvent venir en Europe par exemple. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
L'Union européenne salue une décision très attendue. Le patron d'Air France KLM aussi, une nouvelle formidable, forcément pour le patron de la compagnie aérienne, qui le dit à l'AFP ce soir. La pandémie qui, en France, a relancé les chaînes de production, on l'a vu avec les masques. Le Made in France a permis de fournir des hôpitaux au pire de la crise, au moment où il n'y en avait nulle part. Emmanuel Macron disait lui-même en mars 2020 qu'il fallait produire davantage sur notre sol. Sauf qu'un an et demi plus tard, la concurrence asiatique est de retour et que la COP des masques, relancée sur les cendres de la dernière usine française, est au bord du dépôt de bilan. Johan Moison, il lance une grande braderie dans les Côtes d'Armor où il se trouve pour appeler à l'aide.
On ne nous arrête plus sur les bonnes nouvelles. Vous pourrez désormais acheter nos masques 100% français directement à l'usine tous les lundis matin et mercredi après-midi. Sur les réseaux sociaux, la dernière publication de la COP des masques cache en réalité un appel à la mobilisation. 6 millions de masques sont stockés dans des cartons ici dans les hangars et ne trouvent pas preneur. La coopérative est en danger selon son président Guy Asquette.
Nous avons 1 million d'euros de valeur de masques produits stockés et nous avons besoin, parce que notre trésorerie est en tension, d'une sortie massive là maintenant. C'est vital. Il faut qu'il y ait une réaction, alors bretonne et bien au-delà, que chacun se dise « Ok, moi je peux prendre un carton, 2 cartons. Si on a un mouvement important dans la semaine, alors on pourra regarder la continuité de l'activité. »
La coopérative a lancé une opération promotionnelle en urgence jeudi dernier avec des masques bradés à moins 30, moins 50% pour tenter de déstocker au plus vite. Au fil des mois, les clients, notamment les collectivités, se sont détournés de la coopérative.
La statistique du syndicat industriel des masques, c'est que 98% des achats français depuis 6 mois sont partis à nouveau en Asie. Si les gens veulent sécuriser une relocalisation de production, il faut qu'ils acceptent un écart de prix.
23 salariés travaillent dans les ateliers de la COP des masques, ici à Grasse, dans les Côtes d'Armor.
Johan Moison de France Bleu Armorique est dans la lutte contre le Covid. Le laboratoire Pfizer ouvre la voie à une vaccination dès 5 ans. En tout cas, le laboratoire estime son vaccin sûr et prometteur pour les 5-11 ans. Une demande d'autorisation va être envoyée aux autorités de régulation sanitaire. Réponse sans doute début 2022. La France se sent un peu moins seule ce soir. Après l'annulation du contrat du siècle des sous-marins à l'Australie, Paris a ouvert une crise frontale rappelant ses ambassadeurs à Canberra, à Washington. Face à cette escalade, les dirigeants européens restaient jusqu'ici plus que discrets. Jusqu'à ces mots ce soir de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.
L'un de nos États membres a été traité de manière inacceptable. Nous voulons savoir ce qui s'est passé et pourquoi. Il nous faut d'abord clarifier cela avant que les affaires puissent reprendre.
Ursula von der Leyen sur CNN et de cette crise, il en sera encore question ce soir. Réunion des ministres européens des affaires étrangères à New York à la veille de l'ouverture de l'Assemblée générale de l'ONU. Joe Biden, le président américain, se dit aussi ce soir impatient de s'entretenir avec Emmanuel Macron sur le sujet par téléphone dans les prochains jours, selon Paris.
Les images ont tourné tout le week-end. Sur les réseaux sociaux, y a-t-il eu bavure policière vendredi soir à Noisy-le-Grand ?
Un jeune homme devait être jugé aujourd'hui pour coups et blessures contre 2 policiers. Sauf qu'une vidéo diffusée ce week-end montre un policier mettre un coup de pied dans la tête de ce jeune homme à terre et qui semble maîtriser. Et ce n'est visiblement pas la dernière vidéo de ce type. L'audience a donc été renvoyée en attendant ces nouveaux éléments. Emmanuel Leclerc.
L'avocat de la défense, Ari Halimi, a annoncé qu'une deuxième vidéo contredirait totalement la version des policiers. Une vidéo issue d'une caméra d'un bailleur social pas encore rendue publique. Selon l'avocat, on y verrait que ce sont les policiers qui ont d'abord frappé son client avant qu'il ne réagisse et porte lui-même des coups de poing.
Cette vidéo, il y a tout simplement un début de tabassage en règle, en mode Rodney King, derrière un poteau, par les policiers sur mon client. Et ça, c'est le début de la scène. Alors, nous pensons fortement que les policiers ont menti. D'ailleurs, nous avons déposé plainte pour faux en écriture publique. Cette plainte va être déposée au tribunal aujourd'hui même. On a également déposé plainte pour tentative de meurtre, comme je vous l'ai indiqué. On a également déposé une autre plainte contre le ministère public, cette fois pour obstruction à la manifestation de la vérité.
Le président du tribunal a rapidement décidé de renvoyer cette affaire au 19 octobre prochain, en attendant de visionner cette séquence et de vérifier qui dit vrai. Le procureur a estimé que c'était effectivement opportun, tout en affirmant que le ministère public n'avait pas cherché à protéger les policiers dans cette histoire. Pour preuve, l'ouverture cet après-midi d'une enquête pour violence volontaire. L'avocat des 2 policiers n'a lui pas souhaité commenter ces rebondissements, pas plus que la première vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux et qui montre un policier porter un coup de pied dans la tête d'un suspect, pourtant à terre et maîtrisé.
Emmanuel Leclerc, au procès des attentats du 13 novembre aujourd'hui. Les images du massacre de la Belle Équipe où 21 personnes ont été tuées. Et Salah Abdeslam, une nouvelle fois, a pris la parole. La porte du dialogue doit toujours rester ouverte, a-t-il dit, coupée par le président. Il y a de la provocation dans ce que vous faites, lui a-t-il répliqué. Une parole dure à entendre pour le père de Victor, tué à la Belle Équipe à 24 ans, José Munoz.
Victor était à 2 doigts de nous annoncer son mariage avec sa compagne Alexandra. Donc voilà, c'est terrible d'avoir ce genre de réponse. Je pense que ce genre de réponse, c'est du mépris qu'il faut avoir. C'est du mépris qu'il faut avoir. Il faut surtout pas rentrer. Vous savez, il essaye de nous faire rentrer dans une problématique où le citoyen civil est tout aussi responsable que le militaire. On n'entre pas comme des militaires sur des terrasses. C'est pas la loi du talion. Il fait de la provocation parce qu'il est atteint quelque part. Et à mon avis, il va être atteint, et je l'espère, de nombreuses fois. Qu'il parle. Et on verra que on comprendra très bien et très vite dans notre pays que ces gens-là, plus ils parleront, plus ils... ils défendront l'indéfendable.
José Munoz avec Sophie Parmentier. Compte rendu d'audience à retrouver évidemment sur franceinter.fr. Au Rwanda, c'est un opposant politique qui a été condamné aujourd'hui pour terrorisme et pas n'importe quel opposant. Paul Rusesabagina, rendu célèbre par le film Hôtel Rwanda, qui raconte comment l'ancien directeur de l'hôtel des Mille Collines a sauvé du massacre un millier de Tutsis en 1994. Arrêté en août dernier dans des circonstances rocambolesques, il est depuis accusé d'être impliqué dans des attaques de groupes armés au Rwanda. Laure Broulard est à Kigali.
Le parquet avait requis la réclusion à perpétuité. La Haute Cour pour les crimes internationaux a finalement prononcé une peine de 25 ans d'emprisonnement. Paul Rusesabagina a été reconnu coupable d'avoir été membre d'une organisation terroriste et d'avoir commis des actes terroristes. En tant que président de la plateforme d'opposition en exil MRCD, dont la branche armée, le FLN, a revendiqué plusieurs attaques dans le sud du Rwanda en 2018 et 2019, Paul Rusesabagina était accusé d'être impliqué dans la mort de 9 Rwandais. Lui a toujours assuré que son rôle au sein du mouvement d'opposition était limité à la diplomatie et a rejeté toute implication directe dans les attaques. Il n'était en tout cas pas présent pour écouter le verdict aujourd'hui. Lui et sa défense boycottent en effet les audiences depuis le mois de mars, estimant que le procès n'est pas équitable. Ses proches, eux, ont déjà annoncé qu'ils ne reconnaîtraient pas la décision des autorités rwandaises, dénonçant à plusieurs reprises une parodie de justice destinée à faire taire une des dernières voix critiques du président Paul Kagame. Kigali, Laure Broulard, RFI pour France Inter.
C'est peut-être pour bientôt, Hélène, enfin un chargeur universel qui marche avec tous les téléphones et toutes les tablettes.
Ça fait longtemps qu'on en parle, hein. C'est dans les cartons de Bruxelles depuis 2009. Eh bien, la Commission européenne va présenter cette semaine un projet de loi avec un objectif que cela entre en vigueur en 2024, donc bientôt à Bruxelles, Angélique Bouin.
En cas d'oubli, vous pourrez donc vous tourner vers n'importe quel collègue ou ami pour recharger votre téléphone, tablette, mais aussi votre casque ou votre enceinte Bluetooth. Pas votre ordinateur portable en revanche, qui exige des performances de charge trop précises. Le texte prévoit d'imposer l'usage de l'USB de type C à tous les fabricants comme porte d'entrée du chargeur, ce qui de fait a déjà été adopté ou est en voie de l'être par la plupart des marques, Samsung, Huawei, Nokia. Il ne reste à l'imposer qu'à Apple, qui occupe encore 20% du marché avec ses propres chargeurs. Apple, particulièrement visée donc, mais la marque à la pomme pourra tout de même continuer à faire de la résistance avec ses chargeurs sans fil, non concernés par cette législation. Il ne faut pas non plus brider l'innovation et ces chargeurs sont plus souvent interopérables, plaide une source européenne. Avec sa proposition, la Commission entend aussi limiter l'inflation de déchets électroniques. On a tous dans nos tiroirs des chargeurs inutiles. Les fabricants seront obligés de nous proposer à la vente des appareils sans chargeur pour nous pousser à garder nos anciens. Bruxelles, Angélique Bouin, France Inter.
En bref, deux jours seulement après l'invasion de la pelouse de Lille par des supporters lensois, la commission de discipline sanctionne le club de Lens. Huis clos total de son stade à titre conservatoire, au moins pour les deux prochains matchs contre Strasbourg et Reims. Et on en vient à ces 9 Picasso appartenant à sa fille Maya qui vont rejoindre le musée Picasso à Paris. Il s'agit d'une dation, système qui permet de payer des frais de succession ou de donation avec des œuvres majeures qui restent donc un beau cadeau pour le musée, Isabelle Pasquier.
Pour le musée Picasso, ces œuvres sont importantes car elles recouvrent différentes périodes du maître du cubisme. Un portrait de son père, Picasso à 14 ans, l'enfant à la sucette assis sur une chaise, une palette grise, une petite fille au regard inquiet, sans doute Maya, date 1938, un an après le bombardement de Guernica, un an avant la Seconde Guerre mondiale. La Vénus au gaz, 1945, le brûleur d'un fourneau au gaz dressé à la verticale, une probable évocation des camps. Olivier Picasso est l'un des fils de Maya Picasso.
Ce sont des œuvres avec lesquelles j'ai un peu grandi, mais ma mère m'avait toujours dit que ce serait pour un musée. Donc les choses étaient claires. C'est aussi une bonne issue parce qu'on pourra toujours continuer à les contempler et à les partager avec les autres en venant les voir au musée. Il y a une œuvre qui me touche, c'est le portrait d'homme de 1971 qui irradie de couleurs. À l'époque, Pablo a plus de 90 ans. C'est une œuvre qui a un côté christique. Est-ce la fin de la vie d'un homme qui se rapproche de l'inéluctable et qui peut être un regard vers le ciel ? comme un dernier appel.
Autres œuvres de cette Dacian, un carnet de dessins, des études pour le déjeuner sur l'herbe et un tiki des îles Marquises, une statuette polynésienne fétiche qui a toujours accompagné Picasso depuis le bateau Lavoir.
Des œuvres que vous pourrez contempler au musée Picasso à partir du 19 avril prochain.
Merci beaucoup Hélène Filly. On se retrouve évidemment demain. Dans un instant, c'est le téléphone sonne. 50 millions de vaccinés. Et vous, à vos téléphones. Sinon, comment on s'habille tiens demain ?
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
Elodie Calacon se couvre apparemment, mais moyen, puisque ce sera mieux qu'aujourd'hui.
Oui, ça s'améliore en effet. Alors on retrouve quand même pas mal de nuages du sud-ouest vers le massif central, le Berry et Rhône-Alpes, avec quelques petites averses, mais également quelques petites éclaircies. En Méditerranée, de bons moments de soleil toute la journée, parfois une averse vers les Bouches-du-Rhône ou le relief Corse, encore du vent jusqu'à 50 km à l'heure. Et puis en allant vers le nord, le soleil fera de belles apparitions. Un peu de patience quand même, hein. Le matin, il y aura pas mal de grisailles, mais entre les Hauts-de-Seine, l'Île-de-France, là ce sera du soleil dès le matin, et ce franc soleil gagnera la Normandie l'après-midi.
Et une petite hausse des températures, c'est déjà ça, l'après-midi.
Oui, 19 degrés à Cherbourg, à Aurillac l'après-midi, 20 degrés à Lille, Paris, Mulhouse et Toulouse, 21 à Brest, à Caen, à Bourges, à Dijon, à Lyon ou à Agen, 23 pour Nantes, 25 degrés pour Montpellier, pour Marseille et 27 à Ajaccio. Puis vous avez raison Fabienne, on se couvre le matin parce que ça baisse un petit peu, 8 à 13 degrés seulement.
Allez, j'en étais sûre. Merci beaucoup Élodie Calac, à très vite.